Si vous essayez de communiquer avec lui, il faut lui ouvrir la porte.
J'entends un bruit bizarre. Je sens quelque chose. Je sens un souffle sur moi.
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Bonsoir amis auditeurs et bienvenue dans la bulle de The Mystère. Alors ce soir, je vous propose des news avec hantise, ovni et conférences. Ensuite, votre taroscope pour le mois de novembre, notre Kesako sur les expériences de mort imminente, qui sera suivi par le témoignage de Nathalie qui est ici présente. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
On n'a pas branché son micro, c'est pour ça qu'on l'entendait pas.
Ça y est, c'est bon. Bonsoir.
C'est mieux. Donc Nathalie va nous faire un témoignage, mais je ne vais pas vous en dire plus maintenant. Hein. Je laisse The Mystère. Lol. Et puis enfin, je vous présenterai une personne très active dans les recherches sur les NDE, même si le professeur Lignon n'est pas du même avis que moi. Ce sera donc le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et peut-être si on a le temps, un mystère. Et pas n'importe lequel, cette fois-ci, un bon normand. Donc, avant de commencer, moi je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau de musique. Ne touchez plus à rien, c'est The Mystère, jusqu'à 20h.
Bon, alors, on y va.
Tu
on
proposes.
On va commencer avec Cynthia Emilia, le retour des cow-boys.
C'est parti. À tout de suite.
À tout de suite.
C'est le retour des cow-boys.
Un homme, un vrai.
C'est le retour des cow-boys. C'est le retour de l'homme, le vrai, tout en virilité, amoureux de sa bagnole, prêt à frapper. Celui qui oserait la rayer, collectionnant les femmes, comme on collectionne des trophées. Il aimerait vivre un clip avec des poufs à ses pieds. Oh mon Dieu qu'il est fier avec son verre de bière. Pas marié, ça c'est clair. Toutes des p*** sauf sa mère. C'est le retour des cow-boys. C'est le retour des cow-boys.
Un homme, un vrai.
C'est le retour des cow-boys.
Cow-boys.
C'est le retour des cow-boys. Trop de desperado, trop de John Wayne. Un désert dans la tête, le regard plein de haine. Trop de shérif qui pour un rien dégaine. Il faut se montrer fort pour Calamity Jane. Elle s'est fait belle pour être à ses côtés. Bronzage UV, poitrine en Silicon Valley. Ensemble ils forment le coup Barjo. J'ai nommé Sophie Parker et Claude Barjo. Pour lui c'est l'Éden. Oh, elle fait même à manger. Faut juste qu'elle apprenne à la fermer. Ce soir y'a match à la télé. C'est le retour des cow-boys. C'est le retour des cow-boys. C'est le retour des cow-boys.
Un homme, un vrai.
C'est le retour des cow-boys. Et c'est le retour des cow-boys.
Des cow-boys.
Et c'est le retour des cow-boys.
C'est ça, un homme, un vrai. Parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Non.
Le cow-boy ne pleure pas, l'émotion connaît pas. Ah, si parfois, ouais. Quand Van Damme gagne son combat, ouais. Avec lui faut être cool. Ou tout se règle d'un coup de boule. Sa tête ne sert qu'à ça,
ouais.
Le reste se gère plus bas. C'est le retour des cow-boys.
Ouais.
C'est le retour des cow-boys.
cow-boys.
C'est qui?
C'est le retour des cow-boys.
Bon, la boue est dure. Ah non, son nom est personne.
Son nom est personne.
Non, son nom est personne.
C'est le retour des cow-boys.
Ah.
Des cow-boys. Et c'est le retour des cow-boys. Ouais, des cow-boys. Et c'est le retour des cow-boys.
Ici, c'est moi qui fais la loi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça met dans l'ambiance. C'était pas mal. Donc, Sims Emilia, le retour des cow-boys. Donc, de retour sur Principe Actif, on attaque les news. C'est parti. Une maison hantée à Bresle, dans l'Oise. Dans un article du Courrier Picard paru le 31 octobre. Depuis maintenant un an, Alain et Marilyn Langlois vivent dans une maison appartenant à la commune de Bresle. Depuis novembre 2011, Alain et Marilyn sont les témoins de phénomènes paranormaux au sein de leur habitation. Pour l'association HNP, Haute Normandie Paranormale, qui a enquêté sur les lieux fin juin, pas de doute, il se passe bien des choses chez monsieur et madame Langlois. L'équipe a même établi le contact et a enregistré une voix et a pris une photo sur laquelle apparaît la silhouette d'une enfant. Pour finir et pour aider les locataires un peu désarçonnés, les spécialistes ont pratiqué une purification dans la maison et sommé l'entité de quitter les lieux. Ça, c'est sur les dires de la presse. Depuis, c'est le calme plat. Enfin, pas tout à fait, puisqu'après 2 mois de tranquillité, de nouveaux bruits recommencent à perturber le sommeil du couple. Donc j'ai pris contact avec Julien de HNP, pour lui demander si son groupe pensait que cela pouvait être un poltergeist produit par les locataires ou par la locataire. Hein, puisque je vous l'ai déjà expliqué, un poltergeist est quand même un petit peu plus féminin que masculin. Donc il m'a répondu oui, nous pensons fortement après 2 enquêtes complètes que les phénomènes sont déclenchés en partie par les victimes elles-mêmes. Puisqu'à la fin de la 2e enquête, le comportement était différent, beaucoup moins stressé. Et force est de constater que la maison était très calme, contrairement à la 1re enquête. Donc je tiens à remercier Julien pour ses infos. Et puis, tenez-nous au courant de vos investigations, ce serait sympa. OVNI ou météorite ? Un objet lumineux entrant dans le cratère du volcan Popocatépetl, excusez-moi, que comme ça que j'aurais pu le dire, au Mexique, a été filmé par des caméras de surveillance. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un OVNI, mais la communauté scientifique est sceptique. Le 25 octobre dernier, à 20h45, une caméra utilisée pour contrôler l'activité du volcan, je répète pas le nom, à environ 65 km de Mexico, a filmé un objet lumineux entré dans le cratère. Donc les images ont été présentées lors du journal de la chaîne Televisa. L'objet cylindrique, probablement métallique, brillant et de grande dimension, semble se déplacer à une vitesse supérieure à celle d'un avion. D'après William Lee de l'Académie mexicaine des sciences, il s'agit d'un effet visible sur la vidéo parce qu'on ne voit aucune interaction de l'objet avec l'atmosphère, les gaz ou la fumée qui remontent du volcan. Interviewé par la chaîne télé, l'astronome Margarita Rosalo est également sceptique. Elle avance plutôt l'hypothèse d'une météorite. J'ai été voir la vidéo et c'est vrai que on n'a pas vraiment l'impression que c'est un ovni. Moi, je pense plus pour un météorite. Donc, si vous voulez plus d'infos, la source vient du site 20minutes.fr. Lauréat 2012 de la bourse étudiant de l'IMI. L'Institut Métapsychique International, donc la direction de l'IMI, est réunie le 23 septembre dernier, a décerné pour la 2e fois la bourse étudiant de l'IMI à Kenny Cadinou, pour son travail intitulé « Tentative d'analyse critique de la parapsychologie ». C'est une approche historique et psychanalytique des phénomènes psy. Le lauréat remporte donc la somme de 1 000 euros pour l'inciter à poursuivre et à faire connaître son travail. Vous pouvez lire un résumé de son mémoire sur le site www.metapsychique.org. Pour info, la date de candidature pour le, pour la prochaine bourse étudiant de l'IMI sera le 15 septembre 2013. Elle sera décernée à un étudiant inscrit dans une université, quelle que soit sa discipline, pour un projet d'études scientifiques en lien avec la parapsychologie, et réalisé ou non dans un cadre universitaire. Et pour finir, nos news, bah oui, parce que j'avais pas grand-chose, en tout cas, j'ai pas trouvé de news ayant retenu grand intérêt. Rêve et interprétation des rêves, une conférence d'Alain Juvenon, organisée par l'association L'Heure Céleste, ce samedi 17 novembre 2012, à 14h30, à l'hôtel Ibis Budget, maintenant, anciennement Le Central, 10 rue Georges Bernard, à Évreux. Pour toute info et réservation, vous pouvez vous rendre sur le site leurecéleste.e-monsite.com où vous trouverez les numéros utiles. Sinon, bah, vous tapez Association L'Heure Céleste sur le net. C'est pas dur à trouver, pas de panique, ce sera dans les premières lignes. Ben on va enchaîner maintenant avec notre taroscope. Le taroscope de Madame Annie de Gravigny. Donc pour le mois de novembre, pas le mois de décembre. Pour les béliers, amour, concrétisation de vos espoirs pour ceux en attente de rencontre, pour les personnes mariées, harmonie et douceur de vivre quand même. Travail, possibilité de regard si vous êtes en recherche d'emploi. Pour les autres, période peu active. Mais ça repose. Bélier, santé, retour à une santé stable et équilibrée pour les deux sexes, découverte de remèdes plus naturels. Taureau, en amour, période équilibrée avec possibilité de légalisation d'une relation, mariage ou pacs. Attention quand même aux relations hésitantes car elles pourraient avoir une fin sèche. Travail, tout coule de source si vous êtes dans l'attente d'une réponse ou d'une promotion, c'est le mois rêvé. Santé, bonne initiative pour vous prendre en main et vous allez préparer l'hiver énergétiquement. Lion, en amour, le foyer est concerné, c'est-à-dire couple et enfant dans une période stable, douce et heureuse. Pour les célibataires, il va falloir attendre encore un petit peu. Allez, courage. Travail, attention à l'impulsivité qui pourrait être néfaste. Dans cette période agitée de toutes parts, ne pas craindre un changement soudain car il faut consolider les bases, même pour ceux en attente de réponse. Santé pour les lions, là aussi, faire attention aux pertes de fluide. Surtout, les reins peuvent être concernés, mais sans gravité, rassurez-vous. Vierge, en amour, belle harmonie pour les couples et belle rencontre en vue pour les célibataires. Quelqu'un vous regarde avec admiration et se déclarera. Nathalie, vous n'êtes pas vierge ? Cancer. Ah, pas encore. Travail. Attention aux pièges que l'on pourrait vous tendre dans toutes les situations que ce soit, en attente d'une réponse ou d'un poste déjà en place. Santé, toujours pour les vierges, les organes qui vont par deux peuvent être sollicités et fragilisés, mais grâce à vos précautions, tout rentrera dans l'ordre. Sagittaire. Sagittaire, amour, lenteur dans vos relations, mais c'est pour mieux repartir. Ne vous inquiétez pas du retard ou blocage, tout se fera à son temps. Travail, formation en vue ou apprentissage, une opportunité arrive pour encore découvrir des connaissances. Et la santé, belle stabilité et retour à un équilibre tant attendu. Capricorne, alors Annie m'a dit que c'était le mois du Capricorne. Alors, écoutez bien. Amour, l'apothéose est programmée. Relation à venir ou existante, enrichissante, épanouissante et harmonieuse. Que dire de plus ? Vous êtes les gâtés de ce mois de novembre. Je vous l'avais dit. Hein. Travail, plusieurs propositions seront au rendez-vous. Soit un entretien arrive, soit une promotion est d'actualité. En tous les cas, c'est un mois plein de bonnes surprises. Et pour la santé des Capricornes, c'est vraiment leur mois. Dans tous les domaines, c'est la fête. Verseau. Alors, oh, je tiens quand même à vous le dire, même si certains ne s'en étaient pas rendus compte, j'ai mélangé un petit peu les signes. Ils ne sont pas sortis dans l'ordre qu'ils auraient dû sortir. Mais principal, c'est que vous ayez votre signe. Donc, Verseau, belle initiative pour les célibataires en amour. Saisissez votre chance dans l'action. Pour les couples, on fait des projets pour 2013. Travail, cela stagne et ça vous stresse. Le renouveau sera au rendez-vous et vous ne penserez plus en négatif, bien au contraire. Santé, bah les Verseaux, après une phase descendante, il ne peut y avoir qu'une phase remontante pour enfin arriver au top. Et c'est ce qui va se passer durant le mois de novembre. Vous serez fin prêt pour les fêtes. Poissons, qui normalement sont les derniers. Poissons en amour, vous êtes la locomotive de votre couple ou relation et vous aimez bien ça. Alors où est le problème? Une réussite arrive grâce à vos initiatives. Travail, très très rapidement, des infos viennent à vous sur une future collaboration ou promotion. Ouvrez grandes vos oreilles ou faites confiance à vos intuitions qui ne peuvent pas vous mentir. Allez, au boulot! Santé, pour les poissons, votre stress vous empêche d'entendre votre raison, ce qui pourrait se traduire par un manque de clarté dans vos idées. Et ce n'est vraiment pas le moment. Recentrez-vous et tout ira bien. Balance. On entend du coup, je ne sais plus. Balance en amour, début d'automne torride. Tous les sens sont en éveil. Ne pas quand même vous laisser dominer par eux non plus. Travail, même si les choses ne vont pas dans le bon sens, ni dans le sens que vous souhaitez surtout, n'ayez pas peur d'une remise à zéro d'un poste ou d'une formation, le meilleur arrive après. Santé, prenez votre santé en main et allez vous changer les idées, cela ne peut être que bénéfique pour votre santé aussi bien physique que psychologique. Scorpion, en amour, bien déterminé, bien terminer une histoire afin que la suivante puisse voir le jour. Pour les couples, un peu de changement dans la routine ne ferait pas de mal. Travail, ne pas vous laisser submerger par le surcroît de travail. Et pour ceux qui sont en recherche, eh bien cela risque d'arriver plus tôt que prévu. Elle n'est pas belle la vie, hein Manu? Santé, décompressez de grâce, sinon votre tête va être embuée. N'écoutez que votre petite voix qui vous dira sûrement de faire un break. Les Gémeaux. En fait, on va finir par Cancer.
Je crois, oui.
C'était la surprise. Gémeaux, amour, période très stable pour toutes les relations amoureuses avec consolidation de relations naissantes. Travail, des courriers ou petits déplacements importants pour les contrats de travail. Privilégiez la communication par courrier ou mail. La santé des Gémeaux, attention à ne pas essayer de nouvelles méthodes pas encore testées. Reprendre plutôt un ancien traitement, sinon pas de soucis réels pour les autres. Et enfin, Cancer. Amour, période propice à la procréation pour celles en attente de grossesse. Pour les célibataires, rencontre sous le signe des émotions. Travail, vous allez récolter le fruit de vos efforts, persévérer et la réussite est au bout. Et enfin, santé pour les cancers, attention aux pertes d'énergie. Les méthodes naturelles sont privilégiées. Et hydratation à surveiller. Alors Nathalie, cet horoscope?
Eh bien, en ce qui me concerne, grossesse, non.
Ah bah oui, non. C'est pour les personnes en attente de grossesse.
Oui, non.
On ne sait jamais. Attention. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale, hein, histoire de bien assimiler tout ça. Alors Dédé, tu nous proposes quoi là?
Alors, dans un premier temps, on va s'écouter donc Dark avec le fantôme des villes.
Oh là là, après les cow-boys, les fantômes, c'est
oui.
Chouette.
Ouais, c'est le petit lover de la soirée.
Ouais, moi j'aime bien Darka, ça me dérange pas.
Donc voilà.
Ok.
On y va?
Bah, c'est parti, c'est bah, parti. Tout de suite. On reste sur Principe Actif.
La main tendue sur le trottoir, j'attends que le jour se lève pour dormir. Je suis sûrement trop bas pour leur regard, mais pourtant si souvent dans la ligne de mire chez nous. Aussi à la lutte des territoires, de la nostalgie ainsi que la peur de l'avenir. Si ma vie me semble dérisoire, sache que jamais je n'aurais pensé y appartenir. Je suis le fantôme des villes. Ma vie se résume à des paires de jambes qui défilent. Fantôme des villes. des villes. Debout entre vos voitures au feu tricolore, je connais par cœur vos horaires de travail. Un sourire abîmé, même une dent en or. Dans le champ de vos villes, je tiens le rôle de l'épouvantail. Mais ouvre ta fenêtre, regarde comme il fait froid dehors. C'est pas une petite pièce qui te mettra sur la paille. Me voir, ça te gêne, je fais tâche dans ton décor. Le feu passe au vert, tu es soulagé que je m'en aille. Je suis le fantôme des villes. Ma vie se résume à des paires de jambes qui défilent. Fantôme des villes. Je suis le fantôme des villes. Ma vie se résume à des regards qui se défilent. Fantôme des villes. Fantôme des villes. Couché, volé sur la tête et duvet troué. Toi tu marches, toi tu cours, et moi je dors au truc. Jusqu'où la fainéantise peut-elle les mener? J'ai marché, j'ai couru et maintenant je dors. Tu sais, tu ne connais pas ma vie, ce qui m'a mené à mon arrivée à dormir dehors. Le destin a tout fait pour que je n'arrive pas à me relever. Si tu avais eu mes cartes en main, peut-être que tu serais déjà mort. Je suis le fantôme des villes. Ma vie se résume à des paires de jambes qui défilent. Fantôme des villes. Fantôme des villes. Ma vie se résume à des regards qui se défilent. Fantôme des villes. Fantôme des villes. Assis, la main tendue sur le trottoir, j'attends que le jour se lève pour dormir. Je suis sûrement trop bas pour leur regard, mais pourtant si souvent dans la ligne de mire. Chez nous aussi à la lutte des territoires, de la nostalgie ainsi que la peur de l'avenir. Si ma vie me semble dérisoire, sache que jamais je n'aurais pensé y appartenir. Je suis le fantôme des villes. Ma vie se résume à des paires de jambes qui défilent. Fantôme des villes. Je suis le fantôme des villes. Ma vie se résume à des regards qui se défilent. Fantôme des villes, fantôme des villes.
No, no, no.
Et voilà, c'était donc C'est la Sou avec Ragamuffin. Donc maintenant, si vous le voulez bien, c'est parti pour le Kézako. Générique, évidemment.
Les expériences de mort imminente, ces manifestations qui accompagnent la mort d'un sujet sont maintenant de plus en plus connues du grand public. Le sigle EMI, pour le français expérience de mort imminente, ou sous le sigle NDE, pour l'anglais Near Death Experience. Alors me demanderez-vous, Kézako, une expérience de mort imminente? Allez, pour vous remettre dans le bain ou mettre le monde dans le bain, petit topo de ce qu'est une EMI. Donc l'expérience de mort imminente, c'est un phénomène vécu généralement lors d'un arrêt cardiaque, d'un coma ou d'une anesthésie, mais qui peut également survenir suite à un traumatisme psychologique sans proximité directe avec la mort et parfois spontané sans raison apparente. C'est une expérience un peu particulière rapportée par des personnes qui ont frôlé la mort et ont pu être réanimées. Alors, petite parenthèse quand même, tous ceux qui ont vu la mort de près n'ont pas forcément vécu une EMI, et à contrario, tous ceux qui rapportent ce type d'expérience n'ont pas forcément frôlé la mort. C'était important de le préciser. L'étude moderne de la NDE commence dans les années 1970, en lien avec les progrès des techniques de réanimation, avec le psychiatre américain Raymond Moody. Dans son livre « La vie après la vie » paru en 1975, devenu un best-seller mondial, une centaine de témoignages de personnes étant mortes cliniquement pendant quelques instants et racontant toutes la même chose, passage dans le tunnel, lumière, retrouvailles avec des êtres chers et disparus, leur disant que ce n'était pas l'heure et qu'ils devaient retourner dans leur corps. Ce livre a fait un de ces bruits à l'époque. Beaucoup de gens ont pu montrer mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu. Les témoignages présentent des constantes qui se retrouvent donc chez des personnes de tout âge, de toute culture, croyants ou athées. Et si on analyse les récits de ces rescapés de la mort, on s'aperçoit qu'en général, ils obéissent à un scénario type qui comporterait plusieurs points ou étapes. Mais j'insiste dans la généralité des cas. C'est pas parce que vous avez vécu une NDE que vous avez passé toutes les étapes. D'accord. Bon, ben je pense qu'il est important de révéler quand même d'abord les deux traits majeurs d'une expérience de mort imminente. Premièrement, la personne qui l'a vécu est dans l'impossibilité de la décrire avec un langage habituel, avec des mots. Les mots ne viennent pas. Et il y a aussi ce sentiment de réalité. Elles affirment bien toutes ne pas avoir rêvé ni halluciné et que tout était bien réel. Alors maintenant, je vous propose de vous faire découvrir les principales phases de l'expérience de mort imminente. Je tiens à dire que ce n'est que ma liste, elle est non exhaustive. Certaines personnes vont, pour une phase, décortiquer plusieurs morceaux et en feront plusieurs phases d'une. Donc moi, je l'ai répertorié et j'en ai fait 6 étapes. Voilà, pour moi, il y a 6 grandes étapes dans une NDE. Donc la première, en fait, le sujet a le sentiment quand même d'être mort hein, et conforté dans cette impression parce que souvent, ils entendent une infirmière dire « il ne respire plus, il n'a plus de pouls ». Et puis, il les entend distinctement, pour la simple et bonne raison que l'ouïe est le dernier des 5 sens à fonctionner. Étape suivante, présence ou absence totale d'éléments sonores. Certains perçoivent un bruit soudain, très désagréable, comme un bourdonnement, des sons de cloche, rafales de vent. D'autres, et ça c'est dans la grande majorité des cas, n'entendent rien. Troisième étape, la décorporation ou sortie de corps. Le témoin donc se voit sortir de son corps et observe la scène d'un point de vue en hauteur, hein, il est vers le plafond, puis il flotte un peu à la manière d'un astronaute. Donc il est capable de voir dans toutes les directions, de zoomer sur des détails, de voir à travers des objets, et puis j'en passe. Quatrième étape, c'est la sensation de passer dans un tunnel. Avec cette lumière au bout, avec l'impression d'avancer à grande vitesse tout en restant immobile. Ça, ça a été beaucoup pris dans les témoignages. La cinquième étape, donc cette étape-là, c'est de voir défiler le film de sa vie. Donc à ce stade, il est relativement fréquent puisqu'il touche 25% des rescapés. Certains sujets remontent le temps, d'autres suivent le fil chronologique de leur existence. Puis vient la sixième, et là, la rencontre avec des guides ou des défunts. C'est le point, on dit que c'est le point de non-retour. Ces personnages auxquels est souvent attribué un rôle donc de guide ou de conseiller se manifestent, ou alors ce sont des proches décédés, parents, amis, anciens voisins, ou des inconnus, qui communiquent par télépathie, par des échanges de pensées et des émotions instantanées. Et souvent, ils vous invitent à réintégrer le corps physique. Voilà pourquoi le point de non-retour. Vous avez le choix. Et le retour, peut-être parfois très douloureux. Bon, pour beaucoup, le retour à la vie s'accompagne quand même de grands changements dans leur comportement qui peuvent se traduire par une profonde remise en question de leurs valeurs personnelles, et la plupart ne redoutent plus la mort. La majorité des revenants racontent qu'ils ont vécu une expérience incroyable et unique dans leur vie. Néanmoins, il existe des NDE dites négatives, dont on parle moins, mais où chaque étape est vécue comme un véritable enfer. Seuls 5% des expérienceurs ont eu une EMI négative et angoissante, selon Kenneth Ring. Kenneth Ring, un professeur émérite de psychologie de l'Université du Connecticut, cofondateur et ancien président de l'IANDS, donc l'International Association of Near-Dead Studies. Si vous allez sur le site de l'INRES, vous verrez aussi qu'il est membre d'honneur et vous verrez un petit peu sa biographie, sa bibliographie aussi. Donc voilà, je vous encourage. J'ai aussi un autre site qui est très intéressant. Alors, je m'excuse, j'ai oublié son nom de famille. Son prénom, c'est Sonia. Bon, je vous donne le site, c'est www.s17.production.com. C'est un site qui a été créé avant tout et pour tout ce qui est témoignages, documentaires, ayant trait avant tout sur les NDE. Et quand même un gros point au niveau de la neurologie. Voilà, moi je vous propose, avant d'entendre Nathalie et son témoignage, oh, j'en dis trop, je vous propose une petite pause. Dédé, t'as quelque chose pour nous ?
Alors j'ai bien quelque chose pour vous, et pour une fois, c'est toi qui vas l'annoncer vu que c'est la tienne.
Ah oui, j'aime bien. Alors, on va écouter Janis Joplin avec accompagnée de Jimi Hendrix à la guitare. Donc, c'était un Woodstock, hein, et le titre Woodstock, mais je me rappelle plus de l'année, je m'excuse. Et le titre c'est Summertime. Attention, ça c'est du lourd.
Thank you. gonna spread your wings, try to take to the sky.
Petit bug à la fin, ouais. Désolé. Mais on était parti dans le truc. Moi aussi, j'avais envie d'applaudir. Bon, c'était sympa, hein, Janis Joplin.
Oui.
C'est spécial, je sais. On me l'a dit. Mais vous êtes toujours sur 102.4. Vous écoutez Principe Actif et toujours dans la bulle de The Mystère. Donc ce soir, nous avons Nathalie. Bonsoir, Nathalie.
Bonsoir.
Vous êtes là pour témoigner.
Tout à fait.
Parce que vous, vous avez vécu... Alors, si on reprend moi par rapport à mon émission, vous avez vécu quand même les trois premières étapes d'une EMI.
Oui.
Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. C'était en quelle année, dans quelles circonstances?
Alors, c'était en 94. J'étais enceinte de 6 mois, je crois, 5-6 mois.
D'accord.
Et je devais subir une intervention chirurgicale qui risquait, citons, de provoquer un problème à la naissance. Donc, je me suis retrouvée en chirurgie avec anesthésie totale.
Ah oui.
Et le réveil s'est pas très bien passé.
Ah.
Ça s'est passé en tout d'abord 2 étapes.
Mmh.
Une première étape où j'ai été très gênée par de gros bruits. Je ne voyais pas, mais j'entendais beaucoup de bruit. J'entendais qu'on m'appelait, mmh. mais je ne pouvais pas réagir.
Mmh.
Et même à la limite, je n'avais pas envie de réagir. Et donc, ça a duré, en grosso modo, quelques minutes. Et ensuite, je me suis retrouvée, parce que bon, après analyse de la chose, parce que sur le coup, on ne réagit pas, on ne comprend pas. Je me suis retrouvée à me voir en bas. Bon, au premier coup d'œil, je ne me suis pas reconnue. Parce que déjà, comme on ne réalise pas. Et après, j'ai vu autour de moi, il y avait 2 infirmières, un anesthésiste qui me baffait, hein, carrément, puisqu'il fallait me faire réagir. Et qui m'appelait. Et il y avait une lumière, pas blanche, plutôt dorée. Mais plus de bruit, par contre. C'était, je voyais, j'observais, j'étais témoin d'une scène, c'est tout. Et ensuite, alors je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, j'ai reçu une douleur très violente qui m'a remis dans mon corps, tout à fait. Et là, par contre, j'avais mal, mais partout, c'était horrible. Et ils continuaient toujours à me stimuler. Et moi, quelque part, c'est là que je me suis dit, mais punaise, mais j'étais bien. Parce que j'avais plus mal, j'étais bien. Et là, cette douleur dans tout le côté gauche, c'était horrible. Mais sur le coup, on ne réalise pas. C'est après, je dirais peut-être le lendemain, quand j'étais mieux, parce que sur le coup, j'étais complètement groggy, déstabilisée. Et c'est qu'après, je me suis dit, mais c'était moi, c'était pas moi. Je ne comprenais pas trop ce que j'avais vu au départ, parce qu'on ne comprend pas. C'est après, quand on repense à ce qu'on a vu, qu'on analyse, on se dit, bah, si, c'était moi. Et là, on se dit, quoi ? Parce que franchement, on ne s'attend pas à vivre ça.
Ouais. Donc oui, c'est vrai que ça se rapproche quand même à beaucoup de témoignages. Déjà, le fait de revenir dans son corps et de ressentir toutes les douleurs.
Ça fait horriblement
cette
mal.
Cette lourdeur.
Ouais, horriblement mal.
Ouais. Et vous avez eu cette envie de rester, de leur dire un petit peu, mais laissez-moi tranquille.
Inconsciemment, oui. Inconsciemment, oui. Parce que c'est vrai qu'au moment où on se voit dans son lit, on est tellement bien. On n'a pas mal, on ne se sent plus le poids du corps.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on est bien.
Et donc cette rechute où d'un seul coup, mais c'est comme une décharge électrique en fin de compte. Et que là, on a mal, on n'a pas envie d'avoir mal. Mmh. Là, on se dit, ouais, c'était bien, j'aurais bien aimé rester. Mais bon.
D'accord. Et j'avais ma question sur le bout de la langue. Bon, c'est vrai que vous me dites, c'est qu'après coup, vous y avez réfléchi, mmh. mais sur le coup, est-ce que vous vous rappelez si vous aviez cette sensation de vous dire, bon, ça y est, je suis morte, je suis passée ailleurs
ou... Non, du tout.
Non,
du tout. Non, je m'interrogeais plutôt. Mmh. Je me rappelle me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Où je suis?
D'accord.
Et dans les premiers temps, on se dit, mais on ne comprend pas qu'on se voit en bas. On ne comprend pas. C'est après qu'on réalise. Mmh. Parce que bon... On voit que ça bouge autour, mais on ne comprend pas, puisqu'on entend. Moi, personnellement, je n'entendais plus, mmh. contrairement à la première étape où j'entendais qu'on m'appelait. Mais après, je n'entendais plus. Je regardais, je subissais.
Mmh. Vous vous êtes sentie partir?
Oui, quand même, oui.
Ouais.
Oui.
D'accord. Puis, donc, vous dites, parce que je reviens sur ce que vous avez dit au niveau. Quand vous entendiez le bruit, vous saviez que ça a duré quelques minutes. Mmh. Par contre, quand vous vous êtes vu d'en haut, la notion de temps, est-ce que pour vous, ça a duré des heures, ça
non.
a été très rapide?
Il n'y a pas de notion de temps, on ne se rend pas compte.
Ah oui.
Je ne pourrais pas dire que j'ai fait une minute, deux minutes, non. Parce qu'on est tellement bien, je pense que quand on est agressé, là on sent la notion du temps. Mmh. Mais là, du fait que j'étais bien, non. Je ne pourrais pas dire combien de temps ça a duré.
D'accord.
Pour moi, ça a duré un certain temps, parce que j'ai vu quand même, j'ai eu le temps de voir les machines qui étaient autour du lit, les trois personnes. Il y avait deux autres lits à côté. J'ai vu vraiment où j'étais. Mm-hmm. Mais voilà, le dire combien de temps, c'est sûr que ça a duré plus longtemps que la première étape. Mm-hmm. Mais combien de temps, non, je ne pourrais pas dire.
Mm-hmm. Ça aussi, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez vu les lits, les appareils, c'est des choses que vous n'auriez peut-être pas forcément vues dans un état de réveil, justement, après l'anesthésie. C'est quelque chose, c'est vrai, on passe dans une salle de réveil, je ne vais pas regarder la déco, quoi.
Non.
Alors que non, là, bizarrement, vous pourriez décrire la pièce.
Oui.
Et décrire aussi les personnes qui vous entouraient.
Complètement, je ne dirais pas. Ouais. Parce que bon, ça reste quand même... On est tellement pris par tout ce qu'on voit... Mmh. On analyse la totalité. Mmh. Bon, effectivement, j'ai bien vu qu'il y avait un homme, deux femmes, mais dire s'ils étaient blonds, bruns, non.
Ouais, d'accord. Bon, ça me fait penser, par rapport au livre de Raymond Moody, il y a un extrait donc, d'une femme qui a vécu un petit peu ce que vous avez vécu aussi, donc qui s'est réveillée après, qui n'est pas passée par tunnel et tout ça. Et elle explique dans son témoignage qu'en fait... Elle voyait le personnel soignant autour d'eux, mais elle ne pourrait pas les décrire au niveau du visage.
Non.
Par contre, elle a reconnu une des infirmières grâce à son chignon.
Ah.
Parce qu'elle avait une manière de le faire et que comme elle ne la voyait que du dessus, en fait, et que cette dame était au-dessus d'elle pour la réanimer, elle n'a vu que son chignon. Et c'est comme ça qu'elle a reconnu l'infirmière qui essayait de la réveiller. Donc ça, c'est dans un passage du livre de Raymond Moody. Après, je rebondis avec une autre question qui, elle aussi, vient de s'enfuir.
Décidément.
Oui, non, c'est vrai que j'aurais pas dû faire cet aparté, ça m'a fait perdre le fil. Oui, je voulais savoir si, une fois que donc vous êtes réveillée, vous y avez réfléchi. Est-ce que vous en avez parlé donc à l'anesthésiste ou quelqu'un du personnel soignant?
Non, j'en ai jamais parlé. Par contre, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les émissions qui en parlaient.
D'accord.
Alors qu'avant, c'était pas un sujet qui m'aurait intéressée. Mm-hmm. J'ai commencé justement pour comprendre ce qui m'était arrivé.
D'accord. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça permet aux gens
de
quand même
de comprendre ce qui nous est arrivé et de se dire, je ne suis pas folle.
Mmh.
Parce que c'est vrai que, bon, des fois, en parler, les gens nous regardent.
Puis bon, c'est vrai que les scientifiques ne font pas non plus, et beaucoup disent que c'est quelque chose de neurologique, que c'est la conscience. Bon, moi, je m'excuse, mais quand le cerveau, il ne fonctionne plus, il ne fonctionne plus. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça? Moi, il faut qu'on m'explique autrement. Et... J'ai vraiment pas de bol avec mes questions ce soir, je vous assure. Si, voilà, merci. Ah, heureusement que je pige vite quand même. Hein. Sinon, on n'aurait pas assez d'une heure. Quoique, on ne va pas avoir assez d'une heure. Après, en fait, tout ça, est-ce que ça vous a apporté, justement, comme dans beaucoup de témoignages, apporté un regard neuf sur la vie ou changer certaines choses qui... Voilà, se dire maintenant, la vie, en fait, elle est belle. Je vais aller la manger ou non, elle n'est pas terrible.
Je dirais oui et non. Ah. Je dirais qu'à ce moment de mon expérience, j'étais dans une situation familiale très, très compliquée.
Ouais.
Où il y avait des décisions à prendre.
Mm-hmm.
Et ça m'a aidée quelque part à me dire, bah, zut, après tout, il faut prendre les décisions qu'il y a à prendre. Donc, bon, bah, de ce côté-là, oui, ça m'a aidée à prendre les décisions qu'il fallait pour continuer.
Ouais.
Mais de dire que ça a changé quelque chose dans ma façon de vivre, non, je ne pense pas. Peut-être que maintenant, je me dis que si j'ai envie de faire quelque chose, mm-hmm. bah je le fais, je ne demande pas l'avis à Pierre-Paul Jacques.
Ouais. Ça a quand même apporté une autre façon de se dire... Voilà, c'est
voilà. Par rapport à ma vie familiale, je sais que si j'ai envie de sortir, mm-hmm. je vais en parler à mon mari, mais je ne vais pas forcément lui demander l'autorisation en disant, bah, je vais dire, bah, tiens, tel jour, je fais ça.
Ouais, ouais.
Alors qu'avant, j'aurais dit, tiens, ça ne te dérange pas. Voilà. Mmh. Et non, depuis que ça m'est arrivé, je me dis que bah, peut-être aussi par rapport à la vie familiale que j'avais à cette époque-là,
mmh.
où bah, je me sentais un peu gênée de faire un peu ce que j'avais envie.
Mmh.
Et quand j'ai réalisé tout ce qui m'était arrivé, que j'aurais pu très bien y passer,
bien sûr.
Je me suis dit qu'en fin de compte, je n'avais pas à demander quoi que ce soit. Donc, de ce jour-là, oui, je pense que j'ai pris une certaine... liberté de ma personne.
Voilà, vouloir vivre un petit peu la
voilà.
vie
voilà.
qu'on a envie
sans
de vivre.
Sans donner de compte à rendre à qui que ce soit ou demander à qui que ce soit.
Ouais.
Bon, bien sûr, dans la limite du raisonnable, bien sûr.
Bien sûr, dans le respect de l'autre aussi,
voilà.
je suppose.
Mais voilà.
Ouais. Ok. Bon, bah, ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup entendre des témoignages. Je fais un petit coup quand même aux témoins qui se sont désistés. C'est pas très grave. La prochaine fois, peut-être... En tout cas, Nathalie, merci beaucoup.
De rien.
C'était très, très enrichissant. Vous restez avec nous jusqu'au bout.
Tout à fait.
Hein ? On va se faire... tu as quelque chose pour nous, Didi ?
Évidemment.
Allez.
Alors, on y va avec Mickey 3D.
Ah. Et c'est laquelle ?
La mort du peuple. Oui, on est dans la mort. Enfin, voilà.
Ouais.
Cette
oui.
circonstance. Voilà.
Vous remarquerez que dans The Mystère, les musiques sont à thème.
Voilà. voilà. On essaye de... faire avec.
Il y en a assez déguisés, nous c'est c'est les musiques qui sont à thème. Bon bah tout de suite alors.
Le président a déclaré la mort du peuple ce matin. Il a failli nous faire pleurer. Il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. On est resté le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Le soleil et ses rayons au-dessus des maisons, au-dessus des rayons, il y a plus beaucoup d'attractions. Au-dessus des rayons, le président a convoqué les ministres ce matin, les a vivement encouragés à nous dire que tout allait bien. Quand il est venu à la télé, il a mis de l'eau dans son vin, nous a simplement remercié d'un petit geste de la main. On s'est senti paumé soudain. Venez de t'es presque moins que rien. Alors on a regardé au loin.
De retour dans The Mystère. Vous avez reconnu le générique ? Eh oui, maintenant c'est le générique du perso, il va falloir s'y habituer. Bon, ce soir, vu que l'émission n'a pas suivi un cours tout à fait normal, mais quel est le normal dans une émission sur le paranormal ? Le personnage sera un petit peu plus court. Alors oui, petite présentation très courte d'un homme très actif dans la recherche sur les NDE. C'est le docteur Charbonnier, donc ce docteur qui est né le 16 mai 1956 et médecin anesthésiste, référent en réanimation à Toulouse depuis 2004, docteur en médecine depuis 1980. Il a d'abord exercé en SAMU de 1980 à 82 et depuis 1983, il est médecin anesthésiste réanimateur en activité et membre de la Société française d'anesthésie-réanimation, donc la SFAR. Et depuis peu, il est membre d'honneur du Centre d'études des expériences de mort imminente, donc le CEEMI, hein, tout un sigle, et travaille avec cette association. Donc son parcours professionnel l'a très vite amené à s'intéresser aux expériences de mort imminente. Il s'occupe depuis près de 20 ans de personnes en état de mort imminente, des comateux, qui, plongés dans les limbes d'une dimension inconnue, parviennent parfois à revenir à la vie après avoir traversé une expérience bouleversante. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Hein, donc son dernier livre là, qui vient de sortir, c'est « Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà ». Donc, un petit peu comme l'émission d'avant qui n'avait pas l'album de Raga Sonic, je n'ai pas le livre, je ne l'ai pas encore acheté et je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est aux éditions Guy Trédaniel, avec une préface du docteur Olivier Chambon, qui est psychiatre, et une postface d'Emmanuel Ransford, le physicien. Voilà, donc ça c'était un perso très court. On refait une dernière petite pause musicale, hein, histoire de se la faire bien. Et puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite.
Je vous annonce peut-être la musique. Hein.
Si tu veux.
Oui, c'est ma petite dédicace à moi, c'est Adèle. Un petit clin d'œil.
Ok, mais grouille là.
Oui, je me dépêche.
A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell
Bon, on n'a pas grand-chose comme toi, on doit rendre l'antenne, hein, parce qu'il y a le labo derrière et ça pousse. Non, je plaisante. Alors, on va vous faire un petit au revoir. Un gros merci, Nathalie, d'avoir partagé ça avec nous, parce que genre, on sait que c'est pas très simple. Ouais. Avec le micro, c'est mieux.
C'est mieux. Bon, c'est pas évident, et moi, je dirais, il faut oser en parler. Avec le recul, je pense qu'il faut en parler.
C'est pour ça, venez nous voir. En plus, anonymat garanti. On ne vous voit pas. Je vous quitte en vous disant qu'on se retrouve le mois prochain avec le 4 décembre, avec une spéciale voyance. Hein, Annie Gravini, notre tarot-thérapeute préférée, répondra en direct aux questions que vous nous aurez envoyées, soit par mail, donc themystère@hotmail.fr, ou sur le site de la radio de Principe Actif. On répondra en direct à des questions sélectionnées. N'oubliez pas de mettre votre question assez concise, bien précise, et ensuite votre prénom et votre âge, et allez, un petit peu d'abus, la ville, quand même. Et puis on répondra. Donc je vous fais des gros bisous. Bonne soirée, ma Didi. On se quitte avec
Bonne
qui
soirée. Ouais. Ça arrive, t'entends?
Oui, avec Marilyn Manson.
Exactement. Sweet dream.
C'est ça. Faites de jolis rêves, prenez soin de vous. Et au 4 décembre. Bisous.